Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
L'arrivée d'un enfant bouleverse totalement le mode de vie du couple et les jeunes parents doivent s'adapter à quelques changements. L'un des aspects du couple qui se transforme totalement, c'est la sexualité. Lorsqu'un couple conjugal devient un couple parental, la vie de couple se retrouve bouleversée. Alors les jeunes parents sont souvent fatigués, ils font passer leur vie de couple au second plan. De plus, ce bébé occupe souvent l'attention, la place et le temps des parents qui ont alors du moins de temps et plus de mal à trouver un moment pour eux. La reprise de la sexualité après l'accouchement dépend de chaque femme, de chaque couple. Pour certaines, le retour à une intimité sexuelle est handicapé par la fatigue, les douleurs, un peu d'appréhension aussi. On en parle ce matin avec nos invités au téléphone de la radio africaine. Caroline Cruz, merci d'être avec nous. Vous êtes conseillère conjugale et familiale à Paris. Vous êtes également l'auteur d'un livre sous forme de bande dessinée, Il faut qu'on parle, donc 60 sujets à aborder en couple avant qu'il ne soit trop tard, c'est paru aux éditions du Rocher. Nous rejoint également au téléphone d'Africa Radio Laura Laventure, elle est psychologue, psychothérapeute et ethno-anthropologue sociale, et dans son cabinet, elle accueille de nombreux couples d'origine africaine. Merci à toutes les deux, mesdames, d'avoir répondu à notre invitation. Alors, comment retrouver une intimité après l'arrivée du bébé? Alors, première question d'abord pour vous, Caroline Cruz, pourquoi la naissance d'un enfant peut-elle fragiliser l'harmonie d'un couple ?
La naissance d'un enfant, c'est un événement à la fois, bien sûr, très heureux, très attendu, et en même temps, comme vous l'avez dit dans votre introduction, totalement bouleversant. Et c'est, on passe de 2 à 3, on passe d'un couple un peu encore peut-être enfant, adolescent, on devient parent, on a des responsabilités, et on a toutes sortes d'inquiétudes, de soucis, bien sûr de bonheur aussi, et c'est d'autant plus compliqué que c'est un moment où tout le monde vous dit « Ah, c'est formidable, ouais, vous avez un enfant, comme vous devez être heureux », et on sera un moment où on se sent très souvent désemparé. La jeune mère, comme le jeune père, ne savent pas trop comment s'y prendre, et tout le monde leur imagine qu'ils sont au comble du bonheur, donc c'est cette tension aussi qui est un peu compliquée.
Ouais. Il y a beaucoup de changements également qui se passent dans le corps, dans la tête, dans la vie, donc ça fait beaucoup de perturbations en même temps, Caroline Cruz.
Oui, ça fait bien sûr, ça fait beaucoup. Il y a des bouleversements physiques. Il y a d'un point de vue aussi, puisqu'on parle de la sexualité, là, il peut y avoir, comme vous l'avez dit, des douleurs. Ouais. Il peut y avoir surtout une appréhension. C'est-à-dire le pire. Enfin, je pense que la sexualité, on y reviendra certainement, mais doit reprendre doucement. C'est-à-dire le pire, c'est que une femme se mette à avoir peur d'avoir mal, et la peur d'avoir mal, ça peut bloquer aussi beaucoup le rapport sexuel. Il faut de la patience, ouais, l'homme, il faut beaucoup de tendresse, beaucoup de complicité, et être doux et tendre dans ces moments-là, parce que c'est des moments de fragilité, et c'est des moments justement où le couple peut basculer. Vous savez, on dit que 25% des couples qui se séparent le font après la naissance du premier enfant, ouais, parce que c'est un moment vraiment, mais c'est un moment aussi, c'est un moment aussi passionnant, si on y prendre du temps, et si on c'est le dialogue, un dialogue, confiance à ça.
Oui. Alors, Laura Laventure, vous qui recevez régulièrement des couples originaires du continent africain dans votre cabinet, est-ce que c'est un sujet qui revient souvent, la sexualité après à l'accouchement? Bonjour.
Bonjour à tous. Alors, bien sûr, puisque la sexualité fait partie de la cohésion du couple, ouais, c'est-à-dire que c'est l'un des éléments qui fait que le couple est couple, finalement, puisque autrement, c'est une relation qui transcende différents domaines, qui peut être l'amitié, un partenaire de vie, un confident. Et finalement, la sexualité vient consolider quelque chose qui fait que c'est un couple. Alors, bien sûr, quand la femme devient mère, quand à son accouchement, la question de la sexualité se pose, c'est quelque chose qui vient questionner déjà l'image qu'elle a d'elle-même, l'image qu'elle a d'elle-même en tant que femme, puisqu'elle est questionnée en premier lieu en tant que mère, sauf qu'elle doit rester une femme. Il y a l'injonction de rester une femme, alors que toutes ses préoccupations sont centrées sur ce bébé qui prend toute son énergie. Donc c'est entre fatigue et pression sociale qu'elle a cette injonction de revenir à la sexualité, oui. Alors que pourtant son corps la commande, puisque c'est vraiment au niveau hormonal que les choses se font à ce niveau-là, son corps la commande bien au contraire d'être centré sur son enfant, mais les pressions sociales la commandent ailleurs. Alors la sexualité, oui.
Ouais, allez-y, terminez.
Non, j'allais dire simplement que la sexualité, finalement, est reléguée en premier lieu dans la tête de la mère qui au niveau hormonal, n'a comme envie que de s'occuper de son bébé et aussi de se reposer, car c'est un challenge pour le corps et très énergivore que d'être mère.
Oui.
La sexualité vient comme une pression sociale, pas forcément comme une obligation personnelle, même s'il peut y avoir les motivations intrinsèques que de maintenir le couple à flot et de ne pas s'égarer dans le rôle de parent, à n'être qu'un couple parental, alors qu'il faut aussi penser au couple conjugal.
Alors Caroline Cruz, peut-être vous également, les personnes que vous recevez en tant que conseillère conjugale et familiale, je ne sais pas si vous leur donnez des conseils de temps, par exemple, combien de temps après l'accouchement peut-on reprendre sa vie sexuelle ?
Alors je crois que surtout il faut dédramatiser un peu et de dire que la baisse de libido, c'est la femme, pour toutes les raisons qu'on a dites, les représentations qu'elle a de son corps, les bouleversements hormonaux,
oui.
La crainte d'avoir mal, la baisse de libido, elle est normale. C'est pas parce que si on commence à, enfin, c'est toujours pareil. Le problème redouble à partir du moment où on considère qu'on n'est pas normal. De la même manière, le temps qu'on met pour reprendre ou pas une sexualité, celle qu'on avait avant, hein, parce que chaque couple a sa sexualité. Donc la sexualité qu'on avait avant, mais ce temps varie. Si on commence à dire c'est au bout de 3 ouais. semaines, au bout de 4 semaines, au bout d'un mois, ça vient fixer des choses et on commence à se culpabiliser. Mon Dieu, voilà, ça fait 4 semaines se sont écoulées et ma libido n'est pas revenue tout à fait comme avant. On n'a pas une sexualité tout à fait comme avant. C'était extrêmement culpabilisant pour les deux. Donc je crois qu'il faut être bienveillant envers soi-même et puis inventer à deux sa propre manière de reprendre la sexualité.
Est-ce qu'il n'y a pas justement naturellement un décalage entre les attentes des hommes et des femmes pendant cette période aussi et, parce qu'on on sait que voilà, ils sont peut-être un peu moins patients ou peut-être que voilà, ils sont un petit peu plus demandeurs, ces messieurs, en général, hein, bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement un décalage au niveau des attentes des uns et des autres? Et puis, comme l'homme ne vit pas aussi dans son corps ce moment qu'est l'accouchement, est-ce qu'il peut comprendre également que la femme lui refuse la sexualité?
Alors, qu'elle lui refuse la sexualité stricto sensu, on peut aussi parler, franchement, peut-être que la pénétration, pendant un certain temps, ça peut être un peu ou douloureux ou inquiétant, ou c'est pas tout à fait ce dont on a envie, mais toujours de manière de faire plaisir à son partenaire pendant une période transitoire et d'avoir du plaisir sexuel sans inquiéter. C'est vrai que les positions de la femme et de l'homme sont différentes, ils n'ont pas vécu la même chose, mais c'est vrai que la position de l'homme n'est pas toujours très facile, parce qu'il ne comprend pas très bien ce qui se passe. Il s'est senti exclu pendant 9 mois d'une relation complètement fusionnelle de la mère avec son bébé. L'enfant naît, bon, il faut qu'il l'adopte d'une certaine manière,
vrai.
Qu'il le découvre.
Ouais.
Et si la maman, ce qui est tout à fait normal dans un premier temps, est très très proche de son bébé, il peut se sentir aussi vaguement jaloux. Au fond, elle s'occupe plus de l'enfant que de lui.
Ouais.
Ou bien il est aussi jaloux parce que l'enfant a plus de place jaloux des deux côtés, jaloux du bébé, jaloux de la maman.
Ouais,
donc il faut qu'il puisse dire ça, hein. Il faut qu'il puisse aussi se confier à sa femme et dire, tu sais, parce que sinon il y a un cercle vicieux qui s'enclenche et plus il se sent exclu, plus il rentre tard du boulot le soir,
ouais.
Plus il rentre tard du boulot le soir, plus la femme se replie sur son enfant. Mais vous savez, il y a des femmes aussi qui disent que leur mari, maintenant qu'elle est devenue mère, il la voit plus autrement,
ouais,
il la voit moins comme
justement,
une médecin, comme
justement,
une amante,
ouais.
Hein. Ils se disent, ils ne touchent plus.
Il y a des hommes aussi qui sont un peu traumatisés lorsqu'ils ont assisté à l'accouchement,
oui,
qui vivent un certain traumatisme et c'est compliqué pour eux après.
Mais c'est compliqué aussi, même des choses simples. Là, c'est pas si simple pour une femme de voir son homme s'occuper des couches du bébé, puisqu'on demande aux jeunes pères aussi de le faire. Et puis, c'est pas non plus si facile pour un homme de voir sa femme allaiter tendrement le bébé. Tout ça, c'est des bouleversements, des représentations qu'on se fait de l'un et de l'autre. Donc, ça prend du temps et il faut vraiment ne pas garder les choses, ne pas dire bon c'est pas grave, ça passera, je vis ça très mal, mais plus tard ça s'arrangera. Non, il vaut beaucoup mieux se dire, se faire confiance, se dire au quotidien les choses, se poser simplement des questions, se dire simplement des petits malaises qu'on peut éprouver, c'est beaucoup plus simple et ça maintient aussi le lien de ce dialogue comme ça, de confiance.
Un mot, Laura Laventure ?
Alors, j'avoue que je n'entends vraiment pas Madame Cruz, je ne comprends pas du tout ce qu'elle dit.
D'accord.
Donc, si vous pouvez me faire un petit résumé, que je raccroche un peu les wagons.
On parlait un petit peu des attentes, du décalage entre les attentes des hommes et des femmes après l'accouchement, et le fait également que l'homme ne vive pas l'accouchement dans son corps. Peut-être qu'il y a des choses qu'il ne peut pas vraiment saisir par rapport aux préoccupations des femmes. Et on parlait également du fait que des fois, certains hommes perçoivent leur femme différemment après l'accouchement.
Oui, tout à fait. Alors, pour prendre la première partie de ce que vous m'avez résumé, la différence entre les attentes des femmes et des hommes sont souvent liées à leur représentation sociale.
Oui.
C'est-à-dire que les hommes, en tout cas en milieu européen, ont du mal à concilier la mère et la femme,
ouais.
En fait, elles sont souvent dissociées. La femme est celle avec qui on a des relations sexuelles, celle qu'on aime passionnellement, celle qu'on imagine dans ses fantasmes, alors que la mère a vraiment cette connotation liée à leur propre mère.
Ouais.
Donc, ça demande de dissocier les deux pour sortir de l'inceste, hein, finalement.
Oui.
Alors que, en ce qui concerne leur propre femme, il y a cette possibilité d'associer les deux à condition que la femme s'exprime, en fait.
Oui.
C'est vraiment un dialogue de couple qui doit se mettre en place. Je sollicite souvent les couples à mettre en place des conseils, en fait, comme un conseil d'administration, mais là, c'est pour le couple.
Oui, conseil de couple.
C'est vraiment l'occasion, c'est vraiment l'occasion de poser les attentes et les ententes. Les attentes, c'est ce qu'on a soit au niveau personnel et que l'on peut cacher parfois à son partenaire. Et les ententes, c'est ce dont on a parlé ensemble et qui est OK pour tous les deux. Et c'est vraiment nécessaire dans la mesure où pour l'homme, cette représentation est difficile à associer.
Ouais.
Donc que la femme parle de ses craintes au niveau de sa sexualité et de la possibilité en fait d'être mère et d'être sa femme.
Ouais.
C'est très très important, au moins de le faire au niveau du dialogue, et que la femme puisse communiquer sur ce qui arrive à l'intérieur de son corps, parce que l'homme n'a vraiment aucune possibilité,
de
ni physique, ni biologique, de savoir, ni de comprendre. Même pour la plupart, ils s'imaginent qu'en fait c'est un petit peu comme les règles, alors que ça n'a rien à voir. Alors l'idée, c'est vraiment de partager au maximum, de clarifier pour l'homme, et de dire au fur et à mesure qui se passe et ce qu'il est possible de faire. Après, quand l'homme est suffisamment investi dans tout ce qui est nursing et couvade du nouveau-né,
oui.
Il est un petit peu moins sollicité de ce côté-là, parce que lui aussi va vivre cet épuisement lié aux nuits blanches.
Oui.
Donc il faut aussi que l'homme s'investisse dans la relation à l'enfant pour que lui-même aille au rythme de la femme et au rythme du bébé.
Éviter le décalage. Coup,
oui. Parce que, par exemple, il y a le congé paternité, c'est un jour, je crois, maintenant. Mais c'est extraordinaire, c'est complètement en décalage par rapport au congé proposé aux mères, qui sont de 3 mois. Ça veut dire que les 11 premiers jours, vous êtes 2 à vous occuper de l'enfant, et le reste, après, la mère est seule. L'homme fringant va à son travail, se repose, rit avec ses collègues, donc un grand moment de pause. Et la femme a passé toute sa journée, a été très fatiguée. Et puis en plus, bien souvent, les mères, elles sont seules. Hein. C'est plutôt un luxe que d'avoir une grand-mère, une tante ou une cousine qui est avec soi.
À proximité,
donc la femme, elle fait tout. Elle est la cuisinière, l'infirmière, la femme de ménage.
Donc le soir, on comprend qu'elle ne soit pas très disponible après.
Ah non, du tout. C'est compliqué d'être disponible après tout ça.
Ouais, c'est vrai.
Donc, un homme qui vit tout ça avec la femme sera moins en demande, parce que lui aussi sera fatigué.
Ouais.
La fatigue liée aux nuits blanches, vraiment, ça prime hein, sur la désir sexuel bien souvent. Mais quand l'homme ne vit pas tout ça, il ne peut pas comprendre. Donc il faut vraiment des temps de pause pour la mère, des temps en fait où elle peut être femme. Après, chacun aménage cela comme il peut, mais vraiment je sollicite les aînés ou toute autre personne de la famille à apporter leur soutien à la nouvelle mère.
Ouais. Parce que vraiment, s'occuper du bébé quelques heures, par exemple.
Oui, il faut relayer, il faut donner un peu de son à la femme. Il faut qu'elle puisse déléguer. Il faut qu'elle puisse avoir ces moments de femme, ces moments où elle peut se réapproprier son corps. Parce qu'avant de pouvoir avoir une sexualité saine, ouais, la mère, elle doit se réapproprier son corps parce que le corps est profondément changé après l'accouchement et même après l'allaitement. Les seins changent, le ventre est différent, tout est différent. Donc il faut qu'elle puisse se réapproprier l'image de son corps et que ça soit une image positive. Et à partir de ce moment-là, d'elle-même, elle reprendra une sexualité saine avec un compagnon à l'écoute et compréhensif.
Alors,
mais
oui,
quoi qu'il en soit, ouais, c'est vraiment le dialogue qui permet de poser ensemble, comme je disais, au-delà des attentes individuelles, mais des ententes communes.
Alors, Caroline Cruz, je sais, vous n'êtes pas médecin, vous êtes conseillère conjugale et familiale, mais peut-être dans le cas des personnes que vous recevez, par exemple, celles qui reprennent leur vie sexuelle après une césarienne, on suppose quand même que, vu la lourdeur de l'intervention, la césarienne, ça doit être plus compliqué de reprendre une sexualité lorsque l'on a accouché par césarienne.
Bah oui, bien sûr. Enfin, ça reprend un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Même l'épisiotomie, ça laisse des petites séquelles.
Ouais.
Mais la césarienne encore plus. Alors là encore, c'est vrai qu'en général, je crois qu'on parle. Je crois qu'il y a 20% des femmes qui accouchent par césarienne.
Ouais. Allô.
Moi, je vous entends.
Oui, allez-y.
On donne un chiffre de 6 semaines après une césarienne pour être sûr que bon, il n'y a pas de risque. Mais là encore, je crois que c'est vraiment important que vos auditrices et vos auditeurs ne gardent pas en tête de manière obsessionnelle les 6 semaines. Vous voyez, ça peut être 5, ça peut être 7. C'est vraiment à chacun et aussi d'en parler. Alors, voilà, vous dites, enfin, justement, je ne suis pas médecin, mais c'est très important que la femme et l'homme, d'ailleurs, s'il souhaite l'accompagner,
ouais,
puisse en parler avec son généraliste, avec son gynécologue, avec la sage-femme qui l'a suivi, en sorte qu'elle puisse aussi confier ses craintes sur le plan médical à quelqu'un de spécialiste, enfin, qui puisse vraiment la guider en fonction de la manière dont s'est passée la césarienne, de l'épisiotomie. Enfin, chaque femme est différente,
ouais,
donc ça me paraît difficile de fixer une règle pour toutes.
D'accord. Oui.
Voilà.
Peut-être un petit complément sur ce sujet, Laura L'Aventure, des femmes que vous rencontrez qui ont des difficultés à reprendre une sexualité après avoir subi une césarienne. Alors, est-ce que vous avez quelques éléments à nous apporter ?
Oui, tout à fait. La césarienne, malheureusement, c'est vraiment une coupure à l'intérieur d'un corps qui était déjà en soi transformé. Et certaines femmes, en fait, gardent quelques croyances limitantes en ce qui concerne ce ventre qui a été déchiré. J'ai une patiente qui avait l'idée qu'en fait, ça pouvait se réouvrir,
ouais,
avec la sexualité.
Ouais.
Donc il faut travailler aussi autour de la croyance liée au corps de la femme, comme les déchirures, les douleurs. Bien souvent, les douleurs viennent quand la sexualité est un peu trop tôt. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la femme puisse prendre le temps d'écouter son corps, même au niveau sexuel avec son partenaire, c'est-à-dire qu'au moment des préliminaires,
oui,
faire attention, regarder dans le sein s'il y a une douleur, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça vient de l'intérieur ? Est-ce qu'il faudrait attendre un petit peu plus que ça guérisse ? 6 semaines, c'est vrai que c'est le temps...
Le temps moyen qu'on donne,
mais... vraiment, il faut que la femme puisse écouter. Il y a des femmes qui sont prêtes bien avant, d'autres qui sont prêtes beaucoup plus tard. Ça ne veut pas dire que c'est du domaine de la compétence ou de l'incompétence de la femme. C'est vraiment le temps de guérison du corps et en même temps d'appréhender toutes les croyances liées au corps. Et un partenaire qui sera accompagné, au moins au niveau des préliminaires, s'accompagne et voir d'un tiens, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que là, tu as mal ? quand j'appuie ici, est-ce que ça te fait mal? Voilà, vraiment écouter le corps à deux pour être sûr qu'on s'y prend au bon moment. Et si ce n'est pas le bon moment, eh ben, c'est vrai que ça cause des frustrations, mais c'est aussi là où l'homme doit mettre en avant le fait que le bien-être de sa femme est très important, d'autant que une première relation réussie après l'accouchement, c'est vraiment l'impulsion vers une sexualité retrouvée et à un rythme qui convient à tous les deux. Donc vraiment, la première relation est très importante. Ça permet vraiment de relancer la dynamique sexuelle dans les couples. Donc vraiment prendre le temps, quitte à faire juste les préliminaires et puis reprendre plus tard quand le corps va mieux vraiment. Mais petit pas par petit pas, étape par étape, amener la femme à reprendre sa sexualité, à déconstruire les croyances liées aux douleurs et, par exemple, en ce qui concerne la césarienne, liée à la réouverture de la plaie, car en effet, une fois que c'est fermé, et que c'est guéri correctement, il n'y a pas de crainte à avoir. On peut reprendre une sexualité tout à fait normale. Et puis maintenant, ce n'est plus comme avant, les cicatrices de césarienne sont vraiment minimes. Il y a des femmes qui font des tatouages sur leurs cicatrices de césarienne.
C'est vrai.
Comme ça, du coup, on n'y voit plus rien du tout.
Ça camoufle un peu. Alors, est-ce que, je ne sais pas, Laura Laventure, si on peut parler rapidement aussi du retour de couche. Est-ce que vous savez l'expliquer aux auditeurs, combien de temps ça dure cette période? Et pourquoi certaines femmes, pendant cette période également, ont des craintes de retomber enceinte?
Eh bien, c'est tout à fait justifié parce que, biologiquement parlant, le retour de couche, c'est au moment, en fait, où la femme est guérie, tout va bien, eh bien, les règles reviennent. À ce moment-là, il y a vraiment une possibilité de retomber enceinte. L'allaitement, même si ce n'est pas fiable à 100%, évidemment, mais l'allaitement, en fait, retarde le retour de couche aussi longtemps que c'est un allaitement intégral.
Ouais.
C'est-à-dire que tout ce qui est alimentation mixte pour les bébés n'assure pas le fait que l'allaitement puisse entraîner le retour de couche. Mais l'allaitement intégral du bébé permet en effet de reculer le retour de couche. Il y a des personnes qui peuvent faire un retour de couche un an, voire deux ans après parce que l'enfant est allaité à la demande. Tant que l'enfant est allaité à la demande, le retour de couche est retardé. Par contre, en ce qui concerne les alimentations mixtes, donc de temps en temps le biberon et de temps en temps le sein, là, le retour de couche est un petit peu aléatoire et ça peut se faire à n'importe quel moment. Donc, il vaut mieux être prudent.
Oui.
Alors, d'ailleurs, il y a des pilules qui sont compatibles avec l'allaitement pour celles
justement, d'où l'importance de reprendre rapidement une contraception après l'accouchement. D'ailleurs, lorsque l'on accouche, les sages-femmes en parlent beaucoup. Elles insistent sur le fait de reprendre rapidement une contraception. Caroline Cruz, alors, quels sont les moyens de contraception à conseiller et quelle contraception après une césarienne, par exemple? Dites-nous-en un petit peu plus.
Oui, mais là, je suis désolée, Aïcha, là, vous m'interrogez sur un terrain qui n'est pas le mien. C'est-à-dire que moi, j'ai pas du tout de... Autant je peux vous répondre sur le plan, mais j'aurais même des choses à ajouter par rapport à la position.
Allez-y.
Non, parce que mais peut-être il vaut mieux laisser votre autre interlocutrice répondre.
D'accord, Laura Laventure.
Oui, Laura Laventure, qui très bien et certainement beaucoup mieux que moi. Non, je voulais juste dire, quand elle disait que, bon, c'est vrai que un tout petit point, la femme est toute seule à la maison à s'occuper du bébé, elle passe toute une journée un peu, bon, c'est sympa un bébé, mais en même temps, ça, c'est pas un dialogue forcément toujours très enrichissant.
C'est vrai.
Et alors que l'homme va papoter avec ses copains au boulot. Oui et non, parce que lui, de ce côté-là, il, quand il rentre à la maison, il arrive comme un étranger. Il arrive comme un étranger pour son bébé, il arrive comme un étranger pour sa femme. C'est comme un tête-à-tête qui s'est passé toute la journée. Et certes, lui, et après tout, le boulot, c'est pas non plus toujours une partie de plaisir quand même. Donc il rentre lui aussi fatigué et il se sent un peu étranger dans sa propre maison. Et donc c'est ça aussi, Laura Laventure l'utilise très bien, comme moi d'ailleurs. Enfin, comme moi, je le disais.
Oui, oui.
Il faut quand même se parler de ça aussi. c'est pas forcément... La situation de l'un et de l'autre est difficile. Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut se dire, parce que sinon, si on ne voit pas ça, il y a un fossé qui va se creuser et chacun va trouver que la situation de l'autre est enviable. C'est chouette, tu vas au boulot tu rigoles avec tes copains et toi, c'est chouette, tu passes ton temps tranquille à la maison à t'occuper du bébé. C'est pas ça, c'est rose ni pour l'un ni pour l'autre. Il faut s'entraider, il faut faire équipe.
Laura Laventure.
Voilà, mais
pour terminer, oui.
Pardon, excusez-moi.
Allez-y, terminez.
Non, je voulais juste dire que sur les autres questions, je préfère que ce soit ma collègue qui vous réponde.
Parfait. De toute façon, on indiquera tous les sites internet pour en savoir un petit peu plus sur choisir sa contraception. Après, un accouchement, vous voulez dire autre chose, Laura Laventure ? Il reste deux petites minutes.
D'accord. Ça serait simplement pour présenter. Des solutions, parce que je parlais du couple, en fait,
oui.
qui doit communiquer à deux, mais ce n'est pas le seul moyen. Il peut y avoir une communication à trois avec un professionnel,
oui.
Un professionnel adapté, donc comme Madame Cruz ou moi-même.
Oui.
Et vous avez des événements aussi autour de la parentalité. Par exemple, le 21 décembre, vous avez les Assises du bien-être et de la santé intégrative qui a lieu au 14 rue Charles Fourier,
oui.
qui aura une table ronde dédiée à la maternité, en fait, et justement l'avant, le pendant et l'après grossesse. Puisque même pendant la grossesse, il peut y avoir des petits ratés dans la sexualité qui vont impacter après sexualité postpartum. Mais le fait d'avoir aussi l'occasion de rencontrer d'autres femmes qui vivent la même chose lors de cette table ronde, il y aura d'autres femmes qui justement en postpartum ont des fois des petits ratés, des petites choses comme ça.
Mm-hmm.
Donc des témoignages, avoir une communauté de mères, tout cela peut être aussi très rassurant, que la femme se rende compte qu'elle n'est pas la seule à vivre ça, et que c'est tout à fait normal, justement.
Ouais.
Et si les auditeurs veulent plus d'informations sur cet événement, ils n'ont qu'à aller sur la page Facebook des concepteurs de l'événement, c'est Maïna, M-A-Y-I-N-A France.
Oui.
Donc les Assises du bien-être et de la santé intégrative. Après, il y aura beaucoup d'autres choses. Il y aura une table ronde sur la beauté et la naturopathie. Mais vraiment, il y a cette table ronde qui...
On partagera l'information sur les réseaux et peut-être aussi dans l'agenda santé très prochainement. Merci à vous, Caroline Croux. Je rappelle que vous êtes conseillère conjugale et familiale à Paris. Vous avez publié également un ouvrage sous forme de bande dessinée. Il faut qu'on parle. 60 sujets à aborder en couple avant qu'il ne soit trop tard, c'est paru aux éditions du Rocher. Et vous, Laura Laventure, vous êtes psychologue, psychothérapeute, vous êtes ethno-anthropologue sociale et on vous remercie à toutes les deux d'avoir répondu présente malgré les complications à cause des grèves en ce moment.
Merci
beaucoup,
merci à vous,
à très bientôt. Dans un instant, vous pourrez télécharger cette deuxième partie sur les réseaux d'Africa Radio. On se retrouve pour Ambiance Africa dans un instant, bougez pas.